Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, nous avons besoin de cette délivrance. Nous qui, sur cette terre, sommes nés dans le péché, rebelles, méchants, violents, infidèles, pécheurs. Mais tu avais prévu de toute éternité que tu viendrais dans ce monde pour nous sauver et nous délivrer. Oui, tu nous donnes une délivrance entière et complète. Toi, le Rédempteur, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés, tu nous as pardonné nos péchés. Si seulement, Seigneur, nous venons à toi pour recevoir de toi le pardon en confessant nos péchés et en nous humiliant au pied de la croix. Rédempteur, Sauveur de gloire, celui qui délivre de tout joug, quel qu'il soit. C'est toi, Seigneur, que nous adorons maintenant et que nous célébrons, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu régneras pour toujours sur cette terre. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Veuille nous parler encore à cette heure. Jésus, merci. Merci pour l'œuvre que tu es venu accomplir pour nous. Merci. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4 et au verset 4, il est dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Lorsque les temps furent accomplis, il y a des temps bien définis, des temps marqués, des temps précis que Dieu a prévus sur son calendrier, que Dieu a prévus dans son action en faveur de sa création de toute éternité, bien avant que le monde fût. Jésus était déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu prédestiné à offrir sa vie en sacrifice. Pourquoi, connaissant tout cela, connaissant tout ce futur, est-ce que Dieu a continué son plan, le plan qu'il avait déjà déterminé dans les parvis éternels, autrefois, bien avant que le monde fût? Pourquoi, connaissant ce qui allait se passer, n'a-t-il pas changé ses plans? Je ne sais, je ne puis l'expliquer, mais je m'étonne, et je dis, Seigneur, merci, merci pour ce que tu es. Dieu sait ce qu'il fait, il est toute sagesse et toute intelligence, et le plan qu'il a pour l'univers tout entier, et pour cette petite boule qui tourne dans l'espace, appelée Terre, sur laquelle il a mis des hommes et des femmes rebelles, rebelles à cause de leur désobéissance et de leur péché, mais dans lequel il a mis son image. Il a mis son image, hommes et femmes libres, libres de choisir pour la vérité ou le mensonge, pour la sainteté ou la souillure, libres de choisir, et auquel il donne la possibilité du choix, quoique rebelle dès le commencement, né dans le péché, la porte est ouverte, la porte de la réconciliation et de la délivrance. Ô merveilleux plan de Dieu, plan que je ne peux expliquer, mais que je vois se dérouler à travers les âges jusqu'à notre époque, et encore à travers les prophéties qui ne manqueront pas de se réaliser. Lorsque les temps furent accomplis, il y a un temps déterminé par Dieu et un temps choisi par Dieu où le Sauveur devait venir. Il devait venir et se manifester aux hommes non pas comme un être extraordinaire qui descendrait des parvis éternels avec un corps glorieux rempli de lumière, d'une magnificence extraordinaire, devant lequel et devant la majesté duquel tout homme, quel qu'il soit, tomberait à genoux. Non ! Il est venu pour s'identifier à nous. Il est venu non pas de façon éclatante, mais il est venu en prenant notre nature. Et c'est dans notre nature qu'il devait porter les péchés de l'humanité. Et il a accepté de venir dans notre nature autant marqué par Dieu. Déjà, dans le passé, il était parlé de lui. Déjà, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de lui. Les rois comme David, inspirés par le Saint-Esprit, ont parlé de lui et de sa personne et de son caractère et de l'œuvre qu'il allait accomplir. Même des grands hommes, des hommes de science dans le passé, des hommes de toute tribu et de toute langue ont parlé de lui sans véritablement le connaître ou le discerner, comme à travers un voile. Des hommes simples, comme le prophète Amos, gardien des troupeaux, qui récoltait les fruits des sycomores. Tous ces hommes-là ont aperçu de loin la gloire à venir, la gloire à venir, la délivrance, celui qui allait venir dans ce monde pour délivrer la création du joug de Satan. Lorsque les temps furent accomplis, il était prédestiné à venir à un temps particulier choisi par Dieu, alors que la révélation se faisait graduellement, étape par étape, pour arriver enfin à l'agneau de Dieu. Combien d'agneaux, combien de sacrifices, des fleuves de sang ont coulé à travers les âges pour le sacrifice des péchés, des hommes, du peuple de Dieu. Chaque jour, des sacrifices étaient offerts pour le péché de l'humanité, pour le péché des hommes. Ils ne comprenaient pas véritablement qu'est-ce que cela représentait. Ils se confiaient et ils croyaient dans ce sacrifice, car ils savaient qu'ils étaient tous pécheurs et qu'ils avaient besoin de pardon. Mais ces sacrifices annonçaient celui qui allait venir, celui qui allait prendre notre nature, celui qui allait devenir véritablement homme et qui, dans son corps d'homme, porterait le péché de l'humanité tout entière. Car lui n'a pas péché, car lui, c'est le dernier Adam. Autant marqué par Dieu, il allait venir, et il est venu dans ce monde. Dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 7, il est dit, « Mais il s'est dépouillé lui-même, lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même pour venir sur cette terre, pour naître à Bethléem. Il fallait qu'il laisse de côté ses prérogatives divines. Il fallait qu'il laisse de côté ses honneurs et cette gloire qu'il avait là-haut auprès du Père, dans les parvis éternels, dans ces palais que nous ne pouvons même pas imaginer, dans cette gloire, cette paix, cet environnement merveilleux. Il fallait d'abord qu'il se dépouille, qu'il laisse de côté cette gloire extraordinaire que nous ne pouvons décrire. Il fallait qu'il laisse de côté ses prérogatives, qu'il laisse de côté son autorité, qu'il laisse de côté tout cela. Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne lui a enlevé ses prérogatives, ni cette gloire. Personne ne lui a ôté les honneurs dont il était digne d'être recouvert. Mais il a accepté de s'abaisser. Il s'est dépouillé lui-même. Personne d'autre ne l'a fait. Ni le Père, ni les anges. Lui-même, en prenant la condition d'esclave. Voilà ce qui est écrit. La condition d'esclave. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez qu'il n'est même pas dit serviteur ici. Bien sûr, il est le serviteur modèle. Ésaïe nous parle du serviteur en long et en large. Et bien ailleurs, dans bien des endroits de la parole de Dieu, il nous est parlé du serviteur par excellence. Mais il est parlé aussi de l'esclave. Et ici, il est bien dit en prenant la condition d'un esclave. Pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il a abandonné tous ses droits. Lui-même n'a jamais fait valoir ses droits. Il avait des droits en tant qu'homme. Il avait des droits en tant que fils de Dieu. Mais il n'a pas considéré ses droits. Il n'a pas fait valoir ses droits. Mais il a fait valoir les droits de son Père, duquel il dépendait. C'est la raison pour laquelle, tant de fois, il a parlé et il a dit, « Ce que je fais, je l'ai vu faire par mon Père. Ce que je dis, je l'ai entendu de mon Père. C'est mon Père qui m'a dit de le faire. C'est mon Père qui m'a donné le commandement. Je ne fais rien de moi-même. Je ne rends pas témoignage de moi-même. » La condition d'esclave, la Bible le dit, il n'a pas fait valoir ses droits, ses prérogatives. Il n'a pas fait valoir sa connaissance supérieure. Non, il s'est borné à faire ce que son Père lui a dit de faire, car il s'est considéré comme esclave, esclave en faveur de l'humanité, en obéissant à celui qu'il a envoyé pour apporter aux hommes la délivrance, la délivrance. Il a parcouru les routes de la Galilée et de la Judée et de la Samarie. Il a prêché l'Évangile. Voici le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, c'était son message. Le précurseur, Jean-Baptiste, avait annoncé ce message que Jésus lui-même a repris. Il a guéri les malades. Jean-Baptiste n'a jamais fait aucun miracle. Mais Jésus a dit de lui, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. » Mais Jésus est plus grand que Jean. Jean a dit lui-même, « Je ne suis pas digne d'ôter les sandales de ses pieds. » Et quand il venait se faire baptiser par Jean, Jean lui a dit, « C'est plutôt moi qui ai besoin de faire d'être baptisé par toi. » Jésus a dit, « Laisse faire ce qui est juste. C'est juste que moi, homme, je sois baptisé par toi. C'est juste que moi, homme, je montre l'exemple. L'exemple à ceux que je suis venu délivrer du joug de Satan. J'apporte la délivrance au monde. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a ressuscité les morts. Il a porté l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Il a pris autorité sur les démons et les puissances sataniques. Il a marché sur les eaux. Oui, il l'a fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit, dépendant du Père. Esclave! Oui, il s'est montré esclave. Il n'a pas fait valoir ses droits, même lorsqu'on l'a arrêté. Il n'a pas fait valoir ses droits, même quand Pilate lui demandait « Es-tu roi ?» Il a dit « Je suis roi !» Mais en tant que roi, il n'a pas agi en tant que roi, mais il a agi en tant qu'esclave, en obéissant à la parole du Père, car il avait été envoyé ici-bas pour une mission. En prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes, c'est ce que nous disent les Philippiens, en devenant semblable aux hommes, comme les hommes. Du reste, il est né comme les hommes à Bethléem. Il est né d'une femme, sans l'intervention d'un homme, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu qui est le créateur de toutes choses, a provoqué cette naissance, car c'est lui qui tient la vie dans sa main, c'est lui qui commande la vie, et il est celui qui peut changer les lois de la nature, car il est le Dieu de l'impossible et le Dieu des miracles. Et c'est ainsi qu'il est venu dans le monde et qu'il est né à Bethléem, dans une étable, car il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il n'a pas choisi de naître dans le palais d'un roi. Il n'a pas choisi d'avoir comme berceau un beau berceau doré avec de jolies dentelles tout autour et une chambre remplie de parfums d'encens ou d'autres parfums. Non, non, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Alors il est né dans une étable. Et là, dans cette étable, il y a l'odeur du bœuf, il y a l'odeur du mouton, il y a l'odeur du bétail. Il n'y a pas ces odeurs chatoyantes, ces odeurs particulières qu'ont les rois et que mettent sur eux ceux qui veulent sentir. Lui, le serviteur, pardon, lui, l'esclave, emmailloté et couché dans une crèche, dans une mangeoire d'animal. Voilà son premier berceau. Voilà son identification à l'humanité, car il est un esclave. Et un esclave ne naît pas dans la maison d'un roi, ni d'un gouverneur. Lui, le sauveur du monde, il est venu pour délivrer, pour apporter la délivrance, devenant semblable aux hommes. Comme les hommes, il a grandi depuis tout petit. Il a sucé les mamelles de sa mère. Il a été dans des langes. Sa mère a dû le nettoyer, le rendre propre. Voilà l'état du Sauveur qui est venu pour nous. Il a grandi là, dans ce petit village à Nazareth. Il a grandi. Il a joué avec les enfants du village. La Bible ne nous dit pas grand-chose de sa jeunesse. Elle nous parle lorsqu'il avait l'âge de 12 ans. Et il avait déjà une connaissance de la volonté de Dieu et de l'Écriture. Je ne crois pas que Jésus, en tant que bébé, que Jésus, en tant qu'enfant de 10 ans, en tant qu'enfant de 9 ans, en tant qu'enfant de 7 ans ou de 5 ans, connaissait exactement tout, tout le plan de Dieu. Oui, il savait que la main de Dieu était sur lui et qu'il avait une mission à accomplir. Mais il était un homme, il était dans l'état d'un homme où la connaissance des choses n'est venue que graduellement. Voilà. Et cette connaissance des choses et des choses éternelles lui est venue alors qu'il marchait dans les traces de son Père et dans l'obéissance. Il est étonnant de voir lorsque des jeunes gens et des jeunes filles ont décidé de marcher avec Jésus, ont dit non au monde, quoique jeunes, la connaissance qu'ils peuvent avoir des choses spirituelles, la connaissance qu'ils peuvent avoir des choses éternelles, car Dieu leur révélera les choses cachées, Dieu leur révélera les choses de l'éternité, et leur foi ira en grandissant. Et certaines fois, nous voyons des jeunes, oui, des jeunes, qui ont dépassé des vieux, entre guillemets, qui ne marchent jamais comme Dieu désire qu'ils marchent, parce qu'ils sont sur deux chemins à la fois. Si tu es jeune et que tu as choisi Jésus, frère, sœur, ne t'égare pas sur d'autres voies. Tu es sur le bon chemin. Pourquoi suivre les chemins du monde? Pourquoi suivre les chemins de la convoitise? Pourquoi vouloir suivre les modes du monde et la façon de se comporter du monde et raisonner comme le monde raisonne? Celui qui appartient au Seigneur de gloire, il est changé dans son entendement, il est changé dans son comportement, il est une nouvelle créature, il appartient à une autre société. Tel était le cas de Jésus. Alors qu'il grandissait, la connaissance des choses éternelles par la parole de Dieu qui était annoncée dans le temple et dans les synagogues où il allait avec ses parents. Cette parole a pénétré dans son cœur et il a compris des choses, de ces merveilles, alors qu'il grandissait. En devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, semblable aux hommes, c'est une chose. Dans la situation d'un homme, c'est une autre. La situation d'un homme, c'est quoi? C'est le besoin de sommeil. C'est le besoin de nourriture. C'est le danger qu'il a affronté continuellement. Ce sont les tentations qui sont sur sa route. Bien sûr, il nous est parlé des tentations de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère. Mais ne pensez pas que ce sont les seules tentations qu'il ait connues. Certes, non, il a connu toutes les tentations que la jeunesse connaît. Pourquoi? Parce qu'il était dans la situation d'un homme. D'un homme. Étant dans cette situation, il a connu la fatigue. Il a connu la lassitude. Il a connu à l'occasion même l'énervement, un certain découragement dans sa nature humaine, lorsqu'il disait à ses disciples, excédé qu'il était, jusqu'à quand vous supporterai-je, homme de peu de foi? Je vous enseigne tous les jours, je vous montre l'exemple, je suis avec vous, et chaque jour, je me consacre à votre vie, à votre marche, car j'ai un plan pour votre vie et votre marche, mais il semble que vous êtes complètement bouchés et que vous ne comprenez rien, parce que vous êtes des hommes charnels, vous êtes des hommes charnels, mais il n'a pas abandonné à cause de cela. Non, merci Seigneur, de ce que tu ne m'as pas abandonné alors que je ne comprenais rien. Tu ne m'as pas abandonné alors que j'avais des raisonnements charnels. Tu ne m'as pas abandonné alors que je pensais être spirituel, mais que j'étais simplement charnel et que je manifestais ma propre volonté au lieu de manifester la tienne. Seigneur, merci, je sais que tu étais fatigué avec moi parce que, Seigneur, j'étais dur à comprendre jusqu'au jour où, par ta grâce, j'ai saisi les valeurs éternelles, les valeurs spirituelles. Et ces valeurs spirituelles ne viennent pas d'un coup, frères et sœurs. Elles viennent dans la communion avec Dieu. Elles viennent lorsque nous cherchons sa face. C'est cette connaissance des choses spirituelles. Ce n'est pas quelque chose qui vous vient d'un bloc. Mais lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous dites non à Satan, alors cette révélation vous sera donnée de plus en plus parce que vous marchez avec lui et il y a échange entre vous et lui et vous. C'est pour cela, marchez avec lui. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, Jésus a été dans la situation d'un homme. Nous le voyons fatigué dans le bateau. Il dort là, sur un coussin à l'avant du bateau, pendant la tempête. Il est si fatigué qu'il ne s'aperçoit même pas de la tempête, jusqu'au moment où les disciples le réveillent en le secouant. Mais comment peux-tu dormir? Ne vois-tu pas que nous allons périr? Homme de peu de foi, voilà ce qu'il leur dit. Quand donc allez-vous avoir la foi? Quand donc? Nous le voyons dans bien des situations, ce Jésus, dans la situation d'un homme. Il était véritablement homme. En plus de cela, il se considérait comme esclave. Il ne s'est jamais considéré comme un maître. Il ne s'est jamais considéré comme un chef. Il n'a même pas parlé comme étant un maître à un chef qui commande et qui décide. Non! Mais il était un conseiller. Oui, c'est ce que le prophète avait dit. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, conseiller, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui impose sa façon de voir. Le conseiller n'est pas quelqu'un qui impose son régime, qui impose sa façon de faire, mais c'est quelqu'un qui va donner le conseil. Et ce conseil, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. Jusqu'à maintenant, il est conseiller pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous l'écoutons? Allons-nous l'écouter? Il nous donne des conseils dans sa parole. Il nous donne des conseils par la parole prêchée. Il donne des conseils et il ne oblige personne. Soit nous écoutons, soit nous ne l'écoutons pas. Pourquoi? Quand il était sur cette terre, il se considérait comme esclave. Alors, il enseignait, il disait ce que son père lui disait de dire. Il était le conseiller par excellence. Merci Seigneur. Il ne s'est jamais considéré comme supérieur aux autres. Non, mais il a parlé de son père qui, lui était supérieur. Il s'est humilié lui-même, Jésus, depuis sa naissance jusqu'à la croix. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous avons encore là des paroles qui nous sont données par l'inspiration du Saint-Esprit. Il est écrit là, « Il faut avouer ou il faut reconnaître. » Avouer, c'est-à-dire reconnaître, oui, mais reconnaître verbalement. Reconnaître avec l'expression de la parole. Reconnaître en exprimant. Il faut avouer, reconnaître, exprimer que le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Oui, nous pouvons parler de mystère. Tous les anciens de l'Ancien Testament ont parlé de lui. Mais c'était quelque chose d'incompréhensible pour eux tous. Alors, ils apercevaient comme de loin quelque chose qui allait venir. Oui, on parlait du libérateur, on parlait du Messie, on parlait de celui qui viendrait pour délivrer. Mais bien souvent, Israël n'a vu qu'une délivrance politique du joug romain, qu'une délivrance politique de ceux qui les dominaient. Ils n'attendaient qu'une délivrance pour eux et qu'eux domineraient alors sur les autres nations du monde. Ils n'avaient pas compris la délivrance que le Dieu de gloire voulait apporter, non seulement à Israël, mais au monde entier. Voilà. Et c'était un mystère. Ils attendaient le libérateur. Ils attendaient le Seigneur de gloire. Alors qu'eux seuls, à cette époque, dans l'Ancien Testament, croyaient dans le Dieu unique et que tous les autres peuples croyaient dans des dieux multiples. Et ils se considéraient comme supérieurs à cause de cela. Oui, certes, supérieurs, mais qu'avez-vous fait avec cette foi? Vous n'avez pas compris le plan de Dieu. Certains parmi vous l'ont compris, mais beaucoup ont eu une religion de tradition et de pratique de tout genre, sans que le cœur y soit. La preuve, vous êtes tombés dans l'idolâtrie, combien d'entre vous, et vous avez fait un genre de syncrétisme, de laide mélange des dieux païens et des dieux vivants, jusqu'au moment où il vous a jugé et vous avez été déporté. Un mystère, oui, un mystère, mais mystère qui nous a été dévoilé en grande partie dans la personne du Sauveur, de Jésus-Christ. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, c'est-à-dire Jésus, celui qui était révélé, celui qui était démontré, celui qui a été mis en lumière, manifesté, c'est-à-dire celui qui n'est pas resté dans l'ombre, celui qui n'est pas resté qu'une théorie, une théorie imprécise, mais celui qui a été manifesté, qui est venu en lumière, qui s'est révélé dans un petit bébé à Bethléem, qui s'est identifié aux hommes, qui a grandi sur cette terre, qui a prêché le message de la délivrance, qui a apporté la délivrance au monde, et qui a porté le péché des hommes sur la croix, qui est mort, percé sur la croix, mais qui n'est pas resté dans le tombeau et qui est ressuscité. Il a été manifesté, il a été révélé, manifesté en chair, car c'est dans la chair qu'il a fait toute cette œuvre, à Bethléem, incarné, dans la crèche. Il s'est manifesté né d'une femme. Dans son ministère, nous le voyons, il s'est manifesté dans toute sa gloire, la gloire du Père, comme il l'a dit lui-même. Et, il est dit, apparu aux anges, relisons, il faut avouer que le ministère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, c'est-à-dire, lorsqu'il a été baptisé, l'esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et la voix du Père s'est fait entendre. C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Justifié en esprit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et l'Esprit de Dieu est sur moi, a-t-il dit. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Il m'a oint pour ouvrir les prisons des esclaves. Voilà pourquoi il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle et pour délivrer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Cet Esprit a justifié son ministère parmi les hommes. Et il est apparu aux anges. Je relis. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges qui se sont étonnés de voir sous quelle forme il a accepté de venir dans ce monde. Ils se sont étonnés là-haut dans la gloire. Ils connaissent sa gloire, ils connaissent sa puissance. Ils connaissent sa personne. Il est celui qui vit de toute éternité, alors que les anges sont des créatures. Lui n'a jamais été créé, car il est de toute éternité. Et ils sont étonnés que ce Dieu éternel s'incarne et devienne un petit bébé. D'abord, un embryon dans le sein de sa mère. Et qu'ils naissent comme tous les hommes naissent sur cette terre. Ils se sont étonnés de voir sous quelle forme il se manifeste au monde. Les anges ont accompagné sa naissance. Là, dans la campagne, il nous est dit que des bergers passaient les veilles de la nuit, veillant sur leurs troupeaux. Et subitement, un ange du Seigneur leur apparut. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, « Ne craignez point !» Voilà le message de Noël. Voilà le message de l'espoir pour un monde rempli de peur. On a peur. Les hommes vivent dans la peur. La peur de la guerre. La peur de la maladie. La peur du sida. La peur du cancer. La peur des sorciers. La peur des féticheurs. La peur de l'avenir, la peur de la mort. Voilà l'homme tel qu'il est, loin de Dieu. Il vit dans l'incertitude et dans la peur. Mais le message de Noël et le message de l'ange est « Ne craignez point !» Alléluia. Pourquoi vivre dans la peur si tu crois en lui? Mon frère, ma sœur, chasse cette peur qui est dans ton cœur. Dans notre société congolaise, il y a trop de craintes, de peur des sorciers, de peur des fétiches. Des chrétiens qui sont dans l'église depuis longtemps vivent encore dans la peur parce qu'ils croient à ces puissances sataniques. Vous pouvez bien y croire et vous avez raison, mais votre Dieu est plus puissant que toutes les puissances sataniques. Oh, si Satan est puissant, notre Dieu est tout puissant. Et le message de Noël est celui-ci. Ne craignez point. Oh, c'est vrai, si un ange se présentait dans cette salle aujourd'hui, il y aurait des réactions de tout genre. Certains fuiraient de peur en criant. D'autres tomberaient à terre, à genoux. D'autres crieraient, que sais-je? Il y aurait une réaction. Pourquoi? Parce que ce serait une manifestation surnaturelle, au-delà du naturel. Mais sachez que chaque fois que nous traitons avec Dieu, que nous traitons de choses spirituelles, que nous traitons de choses qui concernent l'éternité, nous parlons et nous traitons du surnaturel. Et les vrais chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans le surnaturel, au-dessus du surnaturel. Et si nous vivons à ce niveau, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte dans notre cœur. Il y a une assurance. Et même si dans nos corps physiques, il y a un automatisme qui se crée de tremblement, notre âme, notre cœur s'appuie dans les promesses de la parole de Dieu. Et nous réagissons et nous allons de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les anges ont accompagné sa naissance. Et là, ils virent une multitude d'armées célestes qui chantaient et qui louaient les merveilles de Dieu à ces hommes du peuple, ces bergers, qui certainement n'étaient pas des docteurs dans la loi ou des docteurs en théologie, qui n'étaient ni pharisiens ni scribes, et certainement qui ne savaient même pas écrire ou lire. Peu importe, mais ce sont des hommes qui se sont accrochés aux vérités qu'ils ont entendues prêcher dans la synagogue ou dans le temple. Et ces vérités, ce sont des vérités qui sont dans l'Ancien Testament. Donc, avec les lumières qu'ils ont et qu'ils possèdent, ils marchent. Et c'est à eux, que Dieu s'est révélé. Il n'est pas rentré dans la maison d'Hérode. Les anges ne sont pas venus dans la maison d'Hérode, ni dans la maison de Pilate, ni à Rome chez César. Non, c'est à ces hommes simples à une foi simple, qu'ils se sont révélés. Les anges l'ont assisté aussi après son jeûne dans le désert, lors de la tentation. Il est au commencement de son ministère et le poids est lourd. Il sait ce qu'il doit faire, car maintenant, il est un adulte. Il a fait toutes sortes d'expériences. Il a 30 ans et il va commencer son ministère. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui l'accompagne, l'Esprit qui l'a confirmé, l'envoie dans le désert. Et là, il jeûne, car la tâche est lourde. Il a besoin d'une force surnaturelle. Il a besoin de la communion avec son Père. Il est esclave, c'est vrai. Il demande à son Père le secours, car il est véritablement homme. Et il sent le poids sur ses épaules d'homme, du travail, de la mission qui lui a été confiée. Cette mission, elle a été confiée à ce bébé de Bethléem. Et maintenant qu'il est parvenu à l'âge adulte, il doit exécuter sa mission. Et le poids est énorme. Et il passe là dans ce désert. Il boit l'eau des sources qui sortent à cet endroit, sans nourriture, pendant 40 jours et 40 nuits. Et l'ennemi cherche à l'atteindre, à l'arrêter dans ce plan merveilleux de libération de l'humanité. Et il attend qu'il soit faible dans son corps. Il sait qu'il est fort spirituellement parlant. Il sait qu'il est fort et qu'il ne peut pas l'atteindre dans le domaine spirituel. Satan nous tente toujours là où nous sommes faibles. Alors il lui dit, « Dis que ces pierres deviennent du pain. Tu as faim, c'est normal. Tu as le pouvoir, tu as la force. Ces pierres peuvent être changées en pain et alors tu mangeras. » Non, Jésus a discerné la tentation de Satan d'utiliser la puissance, le pouvoir, l'Esprit de Dieu qui est en lui, de l'utiliser à ses propres fins, pour son propre bénéfice. Si Dieu nous donne quelque chose, si Dieu nous remplit de son esprit, ce n'est pas pour nous en glorifier et pour dire « voilà le grand homme que je suis ». Ce n'est pas pour bomber la poitrine. Ce n'est pas pour dire « voilà, je suis le prophète tel et tel ». Maintenant, écoutez-moi. Non, nous ne cessons d'être des esclaves. Si Dieu nous donne ce qu'il nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour le mettre au service des autres. Parce que Dieu désire voir le salut des hommes. Et ce message va être et doit être apporté par des hommes de chair, choisis par lui pour accomplir la tâche. Mais si Dieu nous donne cette tâche, ceci ne nous fait pas supérieurs aux autres. Nous restons des esclaves. Jésus a compris la tentation et il l'a réfutée. Il l'a réfutée. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une nourriture supérieure à la nourriture pour le corps. Même si nous devons manger pour vivre dans ce corps physique, ce corps passera et retournera à la poussière. Mais tu as en toi une âme éternelle. Et cette âme a besoin d'une nourriture que tu ne connais pas, disait Jésus à la femme samaritaine. Ô frères et sœurs, les anges l'ont assisté après son jeûne dans le désert. La parole de Dieu nous dit que, harcelé par l'ennemi, il le plaça au sommet du temple et il lui a dit, « Jette-toi en bas, car il est écrit, » Satan connaît aussi la Bible, « car il est écrit, il demandera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il s'est arrêté là, mais il n'a pas continué à dire ce que la Bible disait, qu'il écraserait le serpent, qu'il écraserait la spique et le serpent. Non, non, il s'est arrêté là, pensant tenter Jésus. Jette-toi en bas du temple. Si tu te jettes en bas du temple, là, il y a la foule qui vient adorer régulièrement dans le temple. Et si on te voit descendre là au milieu de la foule, tout le monde se prosternera devant toi. Et alors, tu pourras avoir l'autorité sur cette foule. Jésus a dit non, non, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et alors, loin de le laisser, il lui montre tous les royaumes de cette terre et leur gloire, les rois, les puissances, les armées, tout. Et il lui dit, voilà, je te donnerai tout cela. Oui, c'est vrai, c'est moi, c'est à toi au départ, c'était à toi. Mais les hommes se sont soumis à moi, et parce qu'ils m'ont écouté, maintenant tout cela m'appartient, c'est à moi. Je sais que tu es venu dans le monde pour reconquérir ce que tu as perdu. D'accord, bon, faisons marcher, d'accord? Voilà, je te donne tout cela, c'est à toi, je te le donne. Tu es un voleur, Satan, tu es un usurpateur, Satan, et je ne suis pas prêt à faire un marché avec toi, je ne suis pas prêt à faire un compromis avec toi. Prosterne-toi devant moi et tout cela est à toi. Oh, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul, oui, je suis venu pour reconquérir ce qui a été usurpé par toi, Satan. Oui, je suis venu pour sauver, pour délivrer le monde de ton joug. Mais ce ne sera pas à travers ton chemin, ce sera à travers le chemin et la volonté du Père duquel je suis esclave. Et après cette tentation au désert, les anges vinrent et le servirent, est-il dit. Les anges l'ont encore réconforté à Gethsémané, alors que le sacrifice suprême approche. Là, Jésus prie, il est en agonie pour le salut de l'humanité. Et là, nous voyons la lutte entre l'homme de chair et l'homme spirituel. « Père, s'il est possible que ces coupes s'éloignent de moi. » Ça, c'est l'homme de chair qui redoute la souffrance. Mais non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Là, c'est l'homme spirituel qui prend le dessus de l'homme charnel. Alléluia, alléluia. Et là, dans son agonie, alors qu'il est seul, « Oh non, ses disciples ne sont pas bien loin, mais ils dorment, ils n'ont rien compris. Ils dorment, ils sont incapables de veiller avec lui. » Alors, là dans cette agonie, dans cette prière intense, la Bible nous dit que sa sueur se tourna en une sueur de sang, des gouttelettes de sang sortirent des pores de sa peau. Satan a voulu l'éliminer avant la croix. Il est reconnu, médicalement parlant, que si un homme, dans une agonie intense, commence à faire des gouttelettes de sang par les pores de sa peau, bientôt la mort suivra. Satan a voulu l'éliminer avant la croix. Mais là encore, il est dit que des anges vinrent et le fortifièrent dans sa nature humaine. Pourquoi? Il doit payer le prix pour la rançon de l'humanité. Les anges auraient voulu intervenir à la croix. Nombreux étaient ceux qui regardaient du haut des cieux ce qui se faisait, les moqueries et tout ce qui se faisait à ce moment-là. Ils étaient anxieux et Jésus a bien dit, « Je puis prier mon Père qui m'enverra des légions d'anges pour me délivrer de votre main. » Mais il s'est donné par sa propre volonté. Tout cela, frères, sœurs, c'est le message de Noël. C'est le plan de Dieu à travers ce petit bébé qui est né à Noël. Les anges auraient voulu intervenir à la croix, mais aucun ordre n'est venu. Les anges ont témoigné pour lui au tombeau, lorsqu'il était mis dans le tombeau et que la pierre a été roulée. Voici que au troisième jour, la pierre a été ôté de devant la porte du tombeau et il est ressorti du tombeau plus que vainqueur. Et il nous est dit que des anges étaient là et ont rendu témoignage. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? À l'ascension encore, alors qu'il est monté au ciel et que les disciples le voient disparaître dans les nuées, subitement ils virent un ange qui leur est apparu et qui leur a dit: ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Alléluia. Nous l'attendons, ce Jésus. Il reviendra. Celui qui reviendra, c'est un homme glorifié, avec un corps glorifié. Et nous aurons un tel corps à sa venue. Les anges ont proclamé son triomphe lorsqu'il est entré dans les parvis éternels et qu'il est entré avec son propre sang dans le Saint des Saints, avec son sang en rançon pour le péché des hommes. Désormais, la colère de Dieu est apaisée et nous avons accès auprès du trône de la grâce à cause du sang qui a été versé par ce Jésus. Je relis, mais il est écrit, il faut dire, il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations. À Jérusalem, il a été prêché, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis 2000 ans, il est prêché, il a été prêché, il est encore prêché dans ces temps de la fin, afin que les hommes choisissent. Nous qui prêchons cet évangile, nous sommes ses esclaves. Nous ne sommes pas des hommes supérieurs, mais nous sommes ses esclaves. Et loin de nous de vouloir vous dire, parce que nous prêchons du haut de cette estrade, que nous sommes des hommes supérieurs. Nous ne faisons que de porter un message que nous avons reçu de lui et qui ne vient pas de nous. Nous ne sommes que des esclaves. Et chacun d'entre vous, qui que vous soyez, vous devez vous considérer comme des esclaves à servir votre maître dans le domaine où il vous a placé pour le but qu'il veut que vous remplissiez comme homme et femme à son service. Vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un homme d'affaires, vous pouvez être un politicien, vous pouvez être un marchand au bord de la route, vous pouvez être beaucoup de choses, un manœuvre, un garde, un sentinelle, un policier, un soldat, car quoi que vous soyez, si vous avez connu Jésus-Christ, vous êtes son esclave et vous avez une tâche à accomplir. Vous pouvez être un général d'armée, vous pouvez être un galonné, vous pouvez être un ministre ou un président. Si vous connaissez Jésus-Christ, vous êtes son esclave. Et il vous a donné une tâche à remplir en son nom. Vous n'êtes pas supérieur aux autres. Non, aucun d'entre nous. Nous n'avons pas le droit de nous donner des titres particuliers et de nous gonfler la poitrine. Je suis prophète, je suis apôtre, je suis ceci ou cela, ou je suis évêque ou bishop. Non, frères, sœurs, réalisons qui nous sommes, que des pécheurs sauvés par grâce. S'il n'y avait pas eu le petit bébé de Bethléem, s'il n'y avait pas eu la naissance de celui qui s'est incarné et abaissé jusqu'à nous, frères et sœurs, nous n'entrerions jamais dans le royaume des cieux. Il a payé notre rançon. Il a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire en notre faveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, qui est né à Bethléem, qui a grandi sur cette terre et qui nous a confié la responsabilité, oui, la responsabilité de le proclamer parmi les nations, à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-il dit encore dans ce même verset ? Il a été cru dans le monde. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu ? Quiconque croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Voilà. Et ensuite, il est dit encore dans ce même verset, il a été élevé dans la gloire. Désormais, il s'est assis à la droite du Père, à la place de l'autorité. Relisons le verset. 1 Timothée 3,16. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté, révélé, mis en lumière. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit et apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Voilà le programme de Dieu. Le programme de Dieu pour ce petit bébé de Bethléem. Frères, sœurs, adorons-le. Disons-lui merci. Baissons la tête. Seigneur, nous sommes étonnés lorsque nous considérons ton programme, la réalité de ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous sommes étonnés et nous ne comprenons pas. Nous voudrions comprendre, nous voudrions saisir. Mais tout cela nous dépasse, Seigneur. Tout cela est pour nous des mystères. Mystères, oui, que tu nous as révélés dans ta personne. Combien, dans les âges passés, ont voulu connaître et savoir ce que nous savons aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Frères, sœurs, levons-nous et adorons Dieu. Levons-nous et adorons Dieu. Disons-lui merci. Seigneur, merci. Levons nos mains. Levons nos mains et adorons le Seigneur. Oh Jésus, Jésus.
Alléluia. Que ton règne vienne. Viens Jésus, viens Jésus. Jésus et règne dans mon cœur. Élevons nos voix dans sa présence. Alléluia, viens et règne. Règne dans nos vies. Règne, Seigneur, dans notre âme, dans notre esprit. Règne dans nos corps, ô Dieu. Tu reviens bientôt. C'est toi qui nous donnes d'être totalement libérés du joug de ce monde. En toi nous nous confions, en toi Seigneur Dieu nous nous abandonnons. Tu es venu, toi le libérateur de l'homme. Seigneur, nous pouvons proclamer que en Jésus nous sommes libres. Merci pour le don de Jésus-Christ. Merci pour la vie nouvelle que tu nous communiques par ta venue, ô Jésus. Merci pour le salut que tu nous donnes. Merci pour le rachat. Tu fais de nous des enfants de Dieu et tu fais de nous lumière dans ce monde, celle de cette terre. Viens, Jésus, et règne dans nos vies. Que ton règne.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.